Ces pierres polies retrouvées par les archéologues ont donné son nom à la période. Néo, cela signifie « nouveau ». Et lithos en grec, c'est la pierre. Le néolithique est donc l'âge de la pierre nouvelle. Car les hommes de l'époque généralisent une nouvelle technique. Ils taillent une lame dans une pierre dure ou un silex, puis ils la frottent pendant plusieurs dizaines d'heures contre un polissoir en roche. En faisant des expériences, les archéologues ont démontré que ces nouveaux outils sont désormais beaucoup moins cassants et beaucoup plus solides. Ils vont permettre aux hommes du néolithique de défricher leur territoire, d'ouvrir des clairières pour y installer bientôt les premiers villages.
Pour nous, le néolithique, c'était ça. C'est un documentaire d'Arte sur nos traces, avec cette voix un peu particulière qui nous raconte comment faisaient les hommes à l'âge de pierre. Avec Jean-Paul Demoule, notre invité, il prend une toute autre dimension au programme aujourd'hui, la révolution néolithique, donc de l'archéologue Jean-Paul Demoule, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1, membre aussi de l'Institut universitaire de France, spécialiste du néolithique et de l'âge de fer. Il a travaillé sur l'archéologie de sauvetage et contribué à la loi française sur l'archéologie préventive avant de présider l'Institut national de recherche archéologique préventive. Il publie aujourd'hui les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs chez Fayard. Une entreprise de réhabilitation, pourrait-on dire, de cette période qui inventa l'agriculture et l'élevage, tournée vers aujourd'hui. Une entreprise de mise en lumière des rouages de cette révolution, apparemment sans précédent. Va savoir si on a fait mieux après. Bonjour Jean-Paul Demoule.
Bonjour.
Est-ce que la révolution néolithique est la mère de toutes les révolutions pour vous? Est-ce qu'elle est même bien plus importante que cette révolution que nous sommes en train de vivre, la révolution technologique?
Oui, je pense que c'est simplement une conséquence à moyen terme, mais que la vraie rupture dans toute l'histoire humaine, jusque-là, jusqu'il y a 10-12 000 ans, on était chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et chasseuses-cueilleuses-pêcheuses.
Il n'y avait pas d'écriture inclusive quand même à l'époque.
Non, puisqu'il n'y avait pas encore l'écriture, effectivement. Ensuite, le mode de vie reste fondé sur l'agriculture, bien sûr, et ce qu'on appelle abusivement une économie de production, qui est en fait une économie de prédation à très grande échelle, puisqu'on épuise progressivement toutes les ressources de la planète. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a effectivement cette rupture, et la révolution industrielle ou numérique n'en sont que effectivement des conséquences.
Pourquoi des conséquences ?
Parce que sinon, on serait toujours dans la forêt à chasser les lapins et à ramasser les framboises. Hein.
Chaque révolution est une rupture, quand même, à sa manière, non ?
Oui, bien sûr. Mais simplement, à partir du moment où on a l'agriculture et l'élevage, on a un boom démographique qui n'existe pas avant. On passe de quelques centaines de milliers d'habitants sur l'ensemble de la planète à actuellement 7, 8, 9 milliards.
Ce boom démographique.
Qui va avoir des conséquences importantes sur toute l'organisation de nos vies. Juste si vous permettez, Antoine, on va poser un peu le décor de cet essai important. Vous cherchez à travers ça à réparer l'histoire, Jean-Paul Demoule. Le néolithique, c'est cette période qui est absente des frises chronologiques dans les salles de classe situées entre la préhistoire et les Gaulois. Quand cette histoire est évoquée, c'est un peu en primaire, c'est-à-dire à un âge où vous estimez que la mise en perspective est encore assez compliquée. 10 millénaires, rien que ça, oubliés de la grande histoire. Pourquoi cette amnésie, d'après vous ?
Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait qu'effectivement, on connaît, on peut visualiser assez bien les hommes préhistoriques, les cavernes, Néandertal, Lascaux, Chauvet. Et puis après, il y a les Gaulois. Donc ça, tout le monde connaît Astérix et Vercingétorix. Donc au milieu, il y a moins d'images un peu saisissantes. Mais je pense aussi, quand on regarde vraiment l'intitulé des programmes scolaires, c'est là que apparaissent effectivement que tout change. Or, quand on lisait par exemple l'arrêté de 2008 des programmes qui suppriment toute la préhistoire de l'enseignement secondaire, l'arrêté dit explicitement on commence avec les grandes civilisations. C'est-à-dire cette idée que finalement les grandes civilisations, les empires, les villes, les monarques, les armées, tout ça va de soi. Donc l'histoire commence là. Il y avait un livre qui s'appelait « L'histoire commence à Sumer » il y a quelques années. Donc, se poser la question de pourquoi, finalement, il y a des villes, des chefs, des rois, des armées, la guerre, etc., c'est quand même une question fondamentale.
Hein. Parce qu'il y a une visée idéologique, selon vous, aussi, cette façon d'effacer cette période.
Oui, mais en partie inconsciente, comme toute idéologie, alors même que il suffit pas d'intéresser les élèves de classe primaire et même de sixième, puisque ça a été rétabli, mais seulement sixième, c'est des problèmes qui se poseraient à tous les niveaux, y compris jusqu'aux classes de terminale.
Et c'est pas l'absence de connaissances qui a provoqué ça. On a les moyens de raconter ce qui s'est passé à cette période-là.
Oui, bien sûr. Il y a une explosion des connaissances archéologiques depuis 20 ou 30 ans, grâce à notamment ce qu'on appelle l'archéologie préventive, liés aux grands travaux d'aménagement, etc. Donc on connaît, au contraire, énormément de choses. Hein. Donc alors c'est vrai qu'il y a souvent un retard, que vous devez connaître tout aussi bien, entre l'état pointu de la science et puis ensuite ce qui en est diffusé au niveau des classes et dans le grand public. Donc il y a toujours ce décalage. Mais là, ce décalage, il est non seulement il dure, mais il était même en régression, puisqu'on avait même supprimé des programmes.
Et d'ailleurs, dans l'humanité, vous allez plus loin et vous déplorez que les sciences humaines soient quelque part oubliées de plus en plus, en tout cas peu valorisées, pas suffisamment. Pourquoi, d'après vous ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'à travers les sciences humaines, il y a aussi une entreprise de citoyenneté à construire ?
Je pense qu'on a la espèce de croyance positiviste que les vraies sciences, c'est les sciences dites dures. Donc là, il y a physique, la chimie, on construit des choses, on les vend. Donc le reste, ça serait que effectivement idéologie, les sciences humaines. Alors on voit très bien que... Et ça s'exprime très concrètement, il n'y a pas de prix Nobel dans les sciences humaines, hein, c'est à part la littérature. Et quand on classe les universités, le classement de Shanghai, etc., on les classe essentiellement, justement, notamment par les prix Nobel, donc par rapport aux sciences dures. Alors même qu'on s'aperçoit que le problème de l'Europe, par exemple, c'est cette absence de sentiment européen, parce que, comme on cite une citation apocryphe ou non de Jean Monnet, qui disait, si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Donc, effectivement, par un sentiment d'appartenance qui est au fondement de toute idée nationale et de communauté de citoyens en général. Et où j'avais pris l'exemple dans cet article de la Yougoslavie, parce que je connais très bien les pays de l'Est pour y avoir travaillé professionnellement. Si on avait analysé vraiment tout ce qui se passait dans les Balkans, et il suffisait de demander poliment aux historiens ou sociologues de ces pays ou occidentaux, on aurait évité 200 000 morts. Hein. C'est un exemple entre autres.
En annexe de ce livre, vous présentez une chronologie simplifiée, un arbre de l'humanité et un glossaire pour nous aider entre autres à comprendre et à distinguer les grands mots qui vont permettre de comprendre cette période. On y va de plein pied dans ce néolithique. Alors vous rappelez aussi ce qu'est le mésolithique, vous rappelez aussi ce qu'est le néolithique, le paléolithique inférieur, moyen ou supérieur pour nous aider à distinguer toutes ces périodes. Ce que vous montrez surtout, c'est que dans tout ce qui s'est passé, rien n'est naturel. Et c'est là où revenir à cette période, c'est aussi à s'intéresser à plein de choses, dont l'origine des États, ce qui compte beaucoup aujourd'hui. Vous prenez l'exemple de l'agriculture qui porte en germe le pouvoir et les hiérarchies sociales. Vous nous racontez comment est née cette agriculture, mais on a l'impression que dans cette révolution, la rupture majeure, le point essentiel, c'est la sédentarité qui devient la transformation majeure qui va expliquer les autres. Est-ce que c'est bien ça, Jean-Paul de Moule ?
Oui, effectivement, parce que à partir du moment où on veut passer à l'agriculture, il faut être sédentaire. Il y a quelques sociétés nomades où il y a eu des sociétés nomades liées à l'élevage, mais qui ont été relativement minoritaires. Donc à partir du moment où on passe à l'agriculture, on est sédentaire. Et à partir du moment où on est sédentaire et on contrôle ses ressources alimentaires, eh bien, on constate qu'il y a explosion de la natalité, que les femmes font des enfants pratiquement tous les ans et plus tous les 3-4 ans, ce qui va être le cas jusqu'au XXe siècle dans les sociétés agricoles. Donc, dans un milieu fermé qui s'appelle la terre, on a une population qui ne va pas arrêter de croître, donc il va falloir à la fois gérer cela, c'est-à-dire faire des gains de productivité, inventer sans arrêt de nouvelles techniques, et on voit bien les problèmes qu'on a actuellement par rapport à l'énergie, par exemple, et puis cette augmentation continue de la population va poser effectivement des problèmes de gestion. Et il y en a qui vont en profiter, d'autres moins.
Peut-être au début de la période, comment est-ce qu'on passe de la civilisation chasseur-cueilleur, oui, dont vous parliez tout à l'heure, à une civilisation plus agricole où les gens se sédentarisent? Qu'est-ce qui se produit? C'est une révolution technologique qui se produit, ou il y a quelque chose aussi dans la mentalité finalement qui évolue?
Il a fallu plusieurs choses à la fois, sinon ça serait produit partout. Ça ne s'est produit que dans quelques points du monde. D'abord, il a fallu que l'environnement change. Depuis 10-12 000 ans seulement, on est dans l'actuelle période interglaciaire. Pendant les 115 000 ans d'avant, on était dans une période glaciaire, donc n'était pas favorable à ce genre de choses. Donc ça, c'était la première condition. Ensuite, ça s'est fait dans les populations qui ont été capables d'avoir les inventions techniques qui allaient avec. L'agriculture, il faut aussi pouvoir stocker pour pouvoir ressemer ensuite sans que les graines pourrissent. Les animaux, faut les nourrir, faut les soigner. Donc ça demandait ça. Mais en même temps, ça n'a pas été fait non plus dans tous les points du monde qui pouvaient. Donc il a fallu aussi, dans ces endroit, une révolution dans les mentalités, c'est-à-dire plus se percevoir comme une espèce animale parmi d'autres, en se représentant à travers les animaux, comme on le voit sur les grottes paléolithiques, où le système dit totémique, où les groupes descendent chacun d'un ancêtre qui est souvent un animal. Donc il a fallu cette idée de contrôle et de domination de la nature. C'est comme une mayonnaise, si j'ose dire. Il a fallu tous ces éléments-là à la fois qui se sont produits ou qui ne se sont pas produits.
Face à ce boom démographique provoqué par cette révolution, les sociétés humaines vont devoir s'organiser. C'est là qu'elles vont faire état. Quels seront les contours de ces premiers états, Jean-Paul de Moule, qui ressemblent à ce qu'on connaît aujourd'hui? On y retrouve un peu les fondations des États-nations d'aujourd'hui?
Oui, bien sûr, ça fonctionnait exactement pareil. De toute façon, les premiers États, c'était il y a 3500 ans, donc ça fait à peine plus de 5000 ans, c'est-à-dire rien du tout par rapport aux 7 millions d'années de l'histoire humaine. Et donc, il y a des trajectoires différentes suivant les endroits du monde. Les premiers États du monde, avec les premières villes, c'est l'Égypte et la Mésopotamie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des espaces très resserrés. L'Égypte, c'est juste la vallée du Nil. Autour, c'est des déserts. La Mésopotamie, c'est pareil, le Tigre et l'Euphrate, des déserts, des montagnes, des mers. Donc, c'est des espèces de nasses écologiques. Donc là, quand la population monte, on est vraiment sur pression, et on va avoir très vite des sociétés de plus en plus hiérarchisées. Dans d'autres régions du monde, comme l'Europe, à chaque fois qu'il y a des montées, effectivement, on voit des sociétés plus hiérarchisées, par exemple les fameux dolmens sur les bords de l'Atlantique, vers moins 4500, 4000, c'est des tombes somptueuses, extrêmement riches, ça dure quelques siècles, et puis après, ça disparaît. Et ces alternances de périodes de montée et de descente, on va les avoir tout le temps en Europe, jusqu'à l'ultime révolution urbaine avec les Grecs et les Romains qui vont peu à peu grignoter l'Europe. Mais ça va mettre beaucoup de temps à se faire, parce que on peut toujours, si un pouvoir devient trop contraignant, on peut toujours aller ailleurs, ce qu'on ne peut pas faire en Mésopotamie, en Égypte.
Ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que le néolithique, c'est cette période aussi où les populations vont se sédentariser. Mais il y a un paradoxe, parce que vous nous dites aussi que le néolithique a inventé les migrations et les immigrés. Vous citez Pascal Pic, l'homme est le seul singe migrateur, sapiens. Alors comment l'archéologue peut, à un moment ou un autre, retrouver les traces de ces migrations, les parcours?
Il y a plusieurs moyens. On le voit d'abord sur les objets, quand on voit des types d'objets très précis avec leur style, etc., qui vont progressivement se répandre et de manière complète. Par exemple, justement, l'arrivée de l'agriculture et de l'élevage en Europe, ça part du Proche-Orient et puis ça arrive jusqu'à l'Atlantique, et on peut suivre kilomètre par kilomètre. J'ai justement fouillé dans les Balkans au moment où ça commence en Europe. Donc là, on voit très bien le tracé. Et puis maintenant, avec la génétique, on peut suivre aussi les gens très concrètement. Quand on a les deux à la fois, on est sûr qu'il y a migration.
Mais on y retrouve les raisons de la migration. Est-ce que ces traces nous disent pourquoi les gens migraient à l'époque? Est-ce que c'était des migrants économiques? Est-ce que c'était des migrants environnementaux? Pourquoi est-ce qu'ils bougeaient du coup?
Après, il faut faire une fois qu'on a ces données-là, il faut faire des hypothèses et puis tâcher de les valider. La sortie du Proche-Orient, on voit nettement que c'est parce qu'il y a trop de monde. Après, en Europe, c'est une progression qui est quand même assez rapide, enfin rapide dans notre chronologie, c'est-à-dire 2000 km en 2000 ans à peu près. Et là, on peut penser que, dès qu'un village va dépasser 100 ou 200 habitants, une partie de la population va aller plus loin, d'où cette rapidité. Et donc, ça semble bien supposer qu'on ne souhaite pas, justement, on souhaite éviter, dans cette fuite en avant au ralenti, on souhaite éviter des concentrations trop fortes, telles qu'on les a en même temps en Égypte et en Mésopotamie.
Une question d'Antoine.
Oui, on parle là bien de 10 000 ans d'histoire.
Oui.
Entre la préhistoire et les grandes civilisations.
Oui.
10 000 ans, quelles sont les grandes étapes de ces 10 000 ans ou est-ce qu'il n'y a pas des étapes temporelles, mais simplement des étapes géographiques, c'est-à-dire que le système se répand progressivement sur l'ensemble de la planète? Ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez, en tant que proto-historien, nous dire qu'il y a eu quand même des étapes qui conduisent précisément de la civilisation d'avant à la civilisation d'après?
Oui, il y a d'une part le fait qu'on a 6 ou 7 foyers indépendants d'invention de l'agriculture et l'élevage, donc du néolithique, donc qui va être outre le Proche-Orient. Ça ne se fait pas en Europe. L'Europe, c'est une conséquence de l'extension du Proche-Orient. On a la Chine du Nord, la Chine du Sud, les Andes, le Mexique.
À peu près en même temps.
À peu près en même temps, toujours entre 10 000 et 5 000. Et puis après, ça va se répandre. Et à l'intérieur de ça, comme vous dites, il y a, disons, trois grandes étapes successives. L'invention de l'agriculture et l'élevage. Donc là, pendant 1000, 2000, 3000 ans, on a des communautés d'agriculteurs qui commencent à croître et à se développer dans l'espace. Et puis la première rupture, c'est l'apparition d'inégalités sociales visibles. Jusque-là, quand on fouille un cimetière néolithique, il n'y a pas de différence. Les différences en ce qu'on va déposer aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux adultes, mais ça ne va pas tellement plus loin. Et puis, si on prend le cas de l'Europe, vers 4500-4000, on a des tombes avec 1 kilo d'objets en or, alors que d'autres n'ont rien. On construit ces énormes dolmens au-dessus de quelques-uns. Donc ça, ça va être une première rupture. Les sociétés inégalitaires, ce qu'on appelle, les ethnologues appellent des sociétés à chefferie, puisque c'est l'apparition des chefs. Et puis la rupture suivante, donc la troisième étape, c'est effectivement l'apparition de l'État. Qui quelquefois peut être réversible, justement quand les conditions le permettent. Puisqu'en Europe, ça va être les premiers palais crétois vers moins 2000, les premières villes avec Mycène, Agamemnon, moins 1500. Mais après ça va s'effondrer.
Et c'est l'écriture qui est le terme de votre période, c'est ça?
Oui, parce qu'on parle d'histoire à partir du moment où on a des textes. Mais il y a de l'écriture chez les crétois et mycéniens et ça disparaît quand même. Il y a de l'écriture dans la vallée de l'Indus qui va s'effondrer, chez les Mayas qui s'effondrent aux alentours de plus 1000. Donc il peut y avoir des effondrements dans certains cas. Tout n'est pas irréversible, c'est pas une grande ligne droite comme on croyait avant, mais c'est quelque chose d'assez buissonnant.
Un boom démographique, une organisation qui se met en place et très rapidement aussi, revers de la médaille, une perte de contrôle de la situation, inégalité, maladie, violence, tout ça va se confirmer durant cette période. Alors je ne sais pas s'il faut dire que le néolithique est à l'origine de tous nos maux, en tout cas c'est pas sûr que c'était tellement mieux avant. On va voir ça avec vous, invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, Jean-Paul Demoule, anthropologue, auteur de « Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire » chez Fayard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Une rupture aussi très importante à travers cette période du néolithique, c'est le changement des relations, du rapport que l'homme va entretenir avec la nature. Pour ouvrir ce chapitre, je vous propose d'écouter la voix de l'un de vos confrères, l'archéozoologue et biologiste au Musée national d'histoire naturelle, Jean-Denis Vigne. Il parle du rapport de l'homme avec la nature et du début d'un impact anthropique réel qui va se mettre en place et perturber le jeu de la nature.
l'impact de l'homme est aussi vieille que l'homme, si on peut dire. Mais l'organisation des sociétés, les modifications des pratiques, l'intensification de l'exploitation des ressources de l'environnement qui a accompagné l'augmentation démographique d'Homo sapiens, hein, déjà dès la fin des temps glaciaires, puis ensuite, de manière encore plus nette, avec la néolithisation, ont évidemment accru l'impact anthropique qui peu à peu n'a pas gommé l'impact climatique mais est venu perturber le jeu de l'impact climatique qui était finalement avant l'homme entre guillemets le principal moteur de l'évolution des biodiversités.
Alors est-ce positif ou extrêmement négatif en prenant le contrôle de la nature, Jean-Paul Demoule, des animaux et des plantes, en tout cas de certains, les humains se sont aussi dénaturés, écrivez-vous. Que voulez-vous dire par là? Quel renversement de paradigme se passe là?
Ça reprend le titre d'un roman de l'écrivain Vercors, hein, où il pose le problème de comment on définit l'humanité dans une fiction, et il ne trouve justement que ce fait-là dénaturé, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, les chasseurs-cueilleurs se vivent immergés dans la nature, se pensent à travers des animaux et se sentent comme une espèce animale parmi d'autres, et on demande l'autorisation aux esprits des animaux quand on va à la chasse, c'est pas quelque chose de désordonné et de brutal. À partir du moment où on prend le contrôle de la nature, là, comme le disait Jean-Denis Vigne, et ça va être d'une certaine manière les premières manipulations génétiques, puisqu'on va sélectionner les animaux qui conviennent le plus à telle ou telle tâche, à ce moment-là, effectivement, on est dans la domination, et ça ne fera ensuite que s'accroître.
Mais comment les agriculteurs s'inscrivent extrêmement différemment que les chasseurs-cueilleurs dans leur environnement? Qu'est-ce que ça va impliquer aussi sur leur temps de vie? Comment ils vont partager cela?
D'après toutes les études qui ont pu être faites comparatives en ethnologie par rapport aux chasseurs-cueilleurs, on estime que les chasseurs-cueilleurs travaillent beaucoup moins, c'est-à-dire 3-4 heures par jour pour leur alimentation. Si le travail, c'est destiné à se nourrir. Le reste du temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Mais cette période est restée dans les têtes comme le symbole d'une société d'abondance, pourtant.
Oui,
même si on travaillait peu.
Et aussi dans toutes les mythologies ou les religions, hein, c'est la chute du paradis terrestre, le fait d'être obligé de travailler le sol.
C'est ce qu'ils faisaient quand ils ne travaillaient pas. 3 heures par jour, c'est pas mal, ça.
Oui,
du temps.
Oui, ça fait la semaine de 21 heures, effectivement. Donc
on n'a pas d'idée, non, sérieusement, sur cette activité loisir, entre guillemets, des chasseurs-cueilleurs.
Ben, on voit qu'ils avaient le temps de peindre dans les grottes, par exemple. On voit que les statuettes qu'on trouve sont des statuettes plutôt de caractère érotique, donc ils avaient beaucoup plus de temps, comme les bonobos par exemple, pour ce genre d'activité. Enfin, concrètement, on n'en sait rien, mais globalement, de là est venue l'idée, justement, comme vous citiez les sociétés d'abondance, à ce titre, du moins dans la traduction française du livre de l'ethnologue américain Marshall Salins, âge de pierre, âge d'abondance, parce que l'abondance, c'est relatif, c'est pas absolu. Donc c'est le rapport entre le coût et le profit. Parce qu'on va dire, oui, mais nous, ils n'avaient pas ni la télé ni l'Internet, hein, mais on peut penser que notre niveau de vie, qui est bien supérieur à celui de Louis XIV, sera misérable par rapport aux sociétés dans 2 ou 3 000 ans.
Il faut quand même dire que les mauvaises années, ils mouraient aussi. S'ils n'avaient pas de quoi accueillir ou chasser.
Bien sûr.
Ce n'était pas même le paradis que vous décrivez.
Du tout. Pas du tout. La durée de vie est beaucoup plus courte au paléolithique. Mais une partie de nos ennuis vient du néolithique, y compris les maladies d'ailleurs.
Oui, parlons-en des ennuis, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui arrivent à cette période-là. On a évoqué la constitution, l'organisation des États.
Oui.
On a raconté rapidement comment l'agriculture se met en place, comment aussi l'homme change sa relation à la nature. Mais qu'en est-il du côté de ces mots qui nous viennent aussi du néolithique? Comment naissent d'abord les premiers chefs? Je ne sais pas si on peut classer les chefs dans la catégorie des mots futurs, mais comment naissent les premiers chefs qui vont capter le pouvoir et vous dites qu'ils vont aussi le capter en manipulant les imaginaires. Et là, on se dit qu'on voit effectivement les premiers extrémiste de ce qui a pu se passer après et encore aujourd'hui.
Ben, ce qu'on sait par l'histoire ethnologie, c'est que les chefs émergents, les dominants, se donnent toujours comme en relation avec le surnaturel. Les rois européens sont de droit divin, donc il y a pas à discuter. Le pharaon fait venir les eaux du Nil, les chefs polynésiens ont le mana dans leur corps et se donnent toujours comme d'une essence différente. Or, on constate que quand on voit justement apparaître des maisons plus grandes, des tombes plus riches, c'est souvent une partie est en lien justement avec des activités non directement utilitaires, donc on peut penser de l'ordre de l'imaginaire. C'est toute la mise en scène autour du funéraire et de ces tombes, de ces dolmens autour desquels il y a des cérémonies. Le fait que la richesse s'exprime pas par des objets utiles, mais des objets inutiles, en général, en or, des lames de silex extrêmement complexes à confectionner, mais beaucoup trop fragiles pour être utilisées, des haches en jadéite qui viennent des Alpes et qu'on va retrouver jusqu'au Danemark, là aussi trop fragiles. Donc on peut penser que il y a cette émergence, effectivement, ça suppose qu'il y ait de la richesse à prendre, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'il y a des surplus dans ce qui est fabriqué, produit par ces sociétés, mais aussi qu'il y a des gens qui sont capables, justement, de manipuler ça à leur profit en se présentant comme indispensables à la survie du groupe.
Les sépultures avant n'existaient pas, ou comment ça se passait? Vous dites que c'est aussi le néolithique qui a inventé les tombes et les cimetières, c'est-à-dire
les cimetières permanents.
Mise en scène ou cette sacralisation autour de la mort, c'était très traité, très différemment auparavant.
La mort prend une place beaucoup beaucoup plus importante. Et quand on est nomade, les gens on les enterre là où ils sont, si du moins on inhume, parce qu'il y a des tas d'autres méthodes pour faire passer les morts de l'autre côté. Donc on a ce rapport assez simple, et puis dispersé. À partir du moment où les vivants se sédentarisent, les morts se sédentarisent aussi, puisque on les enterre à côté du village ou dans le village. Donc là, ça apparaît à ce moment-là, et on a toutes sortes d'activités qui vont être liées à la mort. On récupère les crânes en modèle un visage dessus, etc. Donc ces activités-là vont devenir beaucoup plus importantes qu'avant.
Question peut-être plus personnelle, parce que vous nous dites donc que cette période-là a amené tous les malheurs des temps, finalement, les chefs, les guerres, les frontières, etc. On a l'impression que vous trouvez que la société avant, la société d'avant était préférable. Est-ce que ça a un sens pour vous de dire ça? Est-ce que ça peut aussi être un travail qui a une visée politique, ou en tout cas d'engagement personnel vers une choix de civilisation différent?
Non, je pense pas du tout que c'était mieux avant. C'est fait c'est le cas de certains livres, comme justement on citait Marcha Salins ou le best-seller de Yuval Harari sur Sapiens, etc., qui dit que le néolithique c'est le début. Non, moi je suis historien, donc petit un, je ne fais que décrire. Et deuxièmement, j'essaie de voir effectivement si c'est une ligne droite ou s'il y a eu des retours en arrière ou des phénomènes de résistance au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois quand ça s'écroule, ce qu'on appelle un écroulement, collapse et effondrement. Donc d'une part, il y a toutes sortes d'avantages, puisque vous parliez d'Internet dans le journal, on vit plus longtemps, on se soigne mieux, etc. Il y a un art plus complexe qu'auparavant, donc il y a toutes sortes d'avantages. Donc ça n'a aucun sens d'un point de vue historique de se dire ça devrait être différent. On n'aurait pas dû le faire. Ça n'a strictement aucun sens. Mais en revanche, on peut essayer de repérer dans l'histoire ces phénomènes de résistance et de penser que tout ça ne va pas de soi.
Ça peut nous aider à résister aussi à l'époque, c'est ça que vous voulez dire?
Et éventuellement, une des grandes énigmes qui va été posé par le penseur la Boétie à 500 ans, c'est pas tellement le fait qu'il y a des gens qui veulent être chefs et riches, c'est pourquoi les autres les laissent faire alors qu'ils sont en majorité, ce qu'il appelle la servitude volontaire. Et là-dedans, il voyait trois raisons, des réseaux d'affidés, la manipulation de la religion dont on parlait à l'instant, et puis l'habitude, ça nous paraît normal. Il n'y a pas d'alternative, disait Margaret Thatcher. Donc ça, au moins, regarder le passé, voir qu'il y a eu parfois plusieurs solutions, ça peut effectivement enrichir nos réflexions du moment.
Alors si on prend un thème d'actualité aujourd'hui, oui. Voir comment le néolithique peut l'éclairer, celui de la domination masculine, à laquelle vous consacrez aussi un chapitre, parce que vous nous dites que le néolithique a inventé les premiers chefs, a aussi d'une certaine manière inventé la guerre indissociable de l'émergence des chefs, alors que la violence était déjà omniprésente bien avant l'âge de pierre. Mais pourquoi le pouvoir devient-il déjà si masculin? Comment cette malitude, pour parler un peu comme Ségolène Royal, va être exaltée? Ou d'où va naître la peur des femmes?
Là, c'est un problème effectivement plus complexe et pas complètement résolu parce qu'il est pluridisciplinaire et c'est un dialogue qu'on peut avoir qui existe déjà avec les psychologues, les psychanalystes entre autres. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement il y a une espèce d'homologie entre la domination des hommes sur les femmes et la domination tout court et qu'on voit que les premiers chefs, c'est pas des chefs, c'est des chefs tout court, dans leur immense majorité, même si on trouvera toujours quelques contre-exemples, mais statistiquement insignifiants. On voit ce dont on parlait tout à l'heure, l'érotisation des représentations dès le paléolithique, mais qui semble à sens unique, beaucoup plus le corps féminin vu par des hommes que l'inverse. Donc, il semble bien qu'on a, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, qu'avant le néolithique au début, puisqu'il y a beaucoup de représentations féminines, eh bien c'était l'époque du matriarcat, c'était les femmes qui dominaient et tout allait très bien. En fait, c'est très idéologique, on a ça dans beaucoup de mythologies, tout allait bien, les femmes avaient le pouvoir, mais elles se sont tellement mal servies qu'on a été obligé de leur reprendre. Et que les ennuis, ça vient des femmes. C'est Ève qui oblige le pauvre Adam, bon bougre, à manger la pomme. C'est Pandore qui ouvre la boîte avec tous les mots M-O-U-X du monde. Donc c'est dès qu'on a des textes, c'est présent. Et je pense qu'on peut le vérifier quand on regarde effectivement les données de l'archéologie.
Ce jeu de représentation, depuis la nuit des temps, cette domination masculine, disait votre consoeur Françoise Héritier, oui. Ça montre aussi qu'elle provient d'une certaine manière de l'organisation de nos sociétés, de la manière dont nos sociétés se sont petit à petit construites autour de ce déséquilibre.
Il y a aucun cas de société où ce soit les femmes qui aient le pouvoir politique à l'exclusion des hommes. Là, elles sont plus ou moins opprimées, mais il y a pas de contre-exemple. Il y a quelques sociétés où une femme peut avoir plusieurs hommes, mais c'est pas des harems masculins, c'est simplement que il y a pas assez de femmes, donc on les partage. Donc c'est pas du tout une marque de domination. Mais jusqu'à présent, ce qu'on observe, c'est effectivement cette domination masculine. Alors, est-ce que c'est dans la nature humaine comme le serait l'inégalité et la guerre? À titre personnel, je ne le pense pas du tout, mais c'est l'avenir qui le dira.
Vous avez dit que le néolithique était lié au fait qu'on s'arrête quelque part, oui. Une phase d'agriculture, de l'élevage, etc. Est-ce que c'est le problème de ne plus être nomade, de s'embourgeoiser, peut-être, qui crée tous ces problèmes aussi, finalement, qui sont liés à cette notion?
Ce qui est lié à la sédentarité, c'est effectivement l'augmentation démographique et donc le fait d'être obligé de se confronter à ça et le gérer. Mais l'idée de la domination et de la domination masculine, je pense qu'elle est plus primitive que ça, et que ce qui va différencier ensuite les sociétés, ça sera celles qui sont capables ou non de les organiser autrement et de pas subir ces schémas un peu archaïques.
Plaidoyer à choisir l'histoire plutôt que la subir. Jean-Paul de Moule, les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. Votre ouvrage est paru chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu autour de cette grande table qui se referme donc, mais se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, mais également nous écrire à la programmation préparation aujourd'hui encore. Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc avec Bertie Bourdon et Maxime Morin. À la réalisation, Perret Legras avec Jean-Frédérix, merci beaucoup à eux. Très bel après-midi à tous et je vous dis à demain.